enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je me suis beaucoup interrogé ces jours-ci sur la question, l'art de bien vivre, d'avoir une vie remplie, une vie de plénitude. Jésus en parle. J'avais démarré une série là il y a quelques jours en arrière. Je voulais ce matin partager avec vous un thème qui m'est cher au cœur. Je pense honnêtement que c'est difficile de vivre une vie chrétienne épanouissante quand on a raté les rails de base. Parfois nous venons à l'évangile pour diverses raisons. Par exemple, nous cherchons une solution. Et c'est très bien. Mais finalement, on peut aussi faire de l'évangile des petits pains. On vient toujours à l'évangile quand ça va mal, on vient chercher des petites solutions, des petites solutions. Pourvu que ça aille bien pour moi, pourvu qu'il bénisse ma famille, pourvu qu'il bénisse mes enfants. Et c'est vrai, il y a une part de cela. Mais voyez-vous, je pense que Dieu propose beaucoup plus que simplement des bénédictions terrestres. Je crois honnêtement que Dieu a un plan beaucoup plus large et qu'il veut nous enrôler dans une dynamique et dans une dimension qui dépasse le cadre de notre petite vie personnelle. Il veut donner un sens à l'existence. La parole de Dieu nous apprend que finalement, même l'histoire a un sens et que les temps qui sont devant nous vont aller en s'accélérant pour atteindre le but final de l'histoire, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Le fait que Jésus va revenir et qu'il va prendre ses rachetés, et un jour aussi s'en aller avec eux au ciel. Et il y a là un travail de fond qu'il a donné à ses disciples en leur disant, allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La dernière fois dans le message, nous avons vu la question une vie a besoin pour qu'elle fonctionne bien, a besoin d'acquérir de la sagesse. Et dans cette sagesse, il y a le béaba, qui est la crainte de Dieu. Qui est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, elle amène une nouvelle perspective. Une perspective à la fois terrestre, mais aussi, au-delà de la vie terrestre, au-delà de l'aujourd'hui et du maintenant, au-delà des 70, 80, 97 ans, comme la grand-mère de Caroline qui était enterrée ces jours-ci, qu'est-ce que 90 ans ? Quand on comprend que derrière, il y a une éternité. C'est drôlement long, l'éternité. Hein? Alors, maintenant, je voudrais voir avec vous, un peu à partir du texte d'Ésaïe, quelques trois moments qui sont déterminants dans la vie d'un homme, d'une femme, et qui donnent du sens à l'existence, et qui amènent à mettre en place les bonnes priorités. Parce que des fois, je pense que même certains croyants, et j'en faisais encore partie peut-être, des fois on a des mauvaises priorités. Et la vie, elle marche qu'à un quart. Parce que parfois on oublie la finalité ultime. Lisons ensemble dans Ésaïe 6, chapitre 6. Les versets 2 et suivants. Verset 1 déjà. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Voyez-vous, avant que Ésaïe ait pu, je dirais, remuer le fond des tripes d'Israël, qui à ce temps-là venait de vivre une longue, très longue période d'un royaume, d'un roi, le roi Ozias, qui avait vécu 52 ans à la tête du gouvernement. 52 ans de stabilité politique. Il avait réussi à garder les frontières, il avait réussi à mettre en place un système économique, il avait réussi à donner de la prospérité au pays, de la stabilité, de la paix sociale. Mais il n'empêche que malgré tout cela, il y avait aussi en Israël un autre aspect. Le peuple était dans une morale décadente. Il y avait là des gens qui faisaient du n'importe quoi, tant au niveau spirituel qu'au niveau social. Les juges étaient iniques, les gens se livraient au péché, avaient une apparence de religion. Ils venaient au temple, mais Dieu dit, voilà, vos lèvres m'adorent, mais vos cœurs sont loin. Et si vous lisez chapitre 1 à 5 d'Ésaïe, il y a là un descriptif hallucinant, au point que Dieu appelle son peuple, peuple de Sodome et de Gomorre. Incroyable ça. Peuple de Dieu a été comparé par Dieu lui-même à Sodome et à Gomorre. Quelle décadence. Mais dans ce moment-là justement, à la mort du roi Ozias, donc après une longue période de paix relative et de stabilité sociale et économique, eh bien, à cette année de changement, la mort du roi voulait dire un nouveau roi allait arriver, avec lui les changements, et peut-être c'est votre cas, vous vivez une année de changement. Dans cette année-là, il est dit que Ésaïe vit le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Il a vu Dieu. Il a eu une vision. Il a rencontré Dieu. Et dans cette rencontre de Dieu, il a découvert d'abord la grandeur de Dieu. Tenez-vous bien, il est marqué donc qu'il a vu le Seigneur dans son temple, sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'attention d'Ésaïe est attirée sur la grandeur de Dieu, sur la dimension extraordinairement grande de Dieu, et élevée, sa position élevée, sa capacité de dominer, de gérer, de contrôler les situations. Avant d'aller auprès du peuple pour prêcher l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle, parce que malgré les temps de jugement qu'il annonçait, il y avait aussi un temps, des paroles de restauration qui étaient émises par Ésaïe. Mais avant de faire ça, il a d'abord rencontré Dieu, ou re-rencontré Dieu. Il a vu le Seigneur, sa grandeur, un Dieu redoutable, un Dieu grand et puissant. Mon frère, ma sœur, ton regard est important. Quelle est la taille de ton Dieu que tu sers ? Quelle est la taille du Dieu que tu sers ? Si ton Dieu est grand, tes problèmes se ramollissent. Si ton problème est grand, ton Dieu se ramollit. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous avec le regard. Je vis le Seigneur, dit-il. Je vis le Seigneur, ton regard est important. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu grand et puissant. N'ayez pas l'air convaincu. Bon. Un argument. Il paraît qu'on a découvert jusqu'à présent 122 milliards de galaxies. Déjà 122 milliards pour moi, 122 milliards de mots ou d'euros, c'est pour moi un chiffre... Pas comment c'est pour vous, mais moi c'est énorme, n'est-ce pas ? 122 milliards. Alors de galaxies, alors une galaxie c'est déjà énorme, n'est-ce pas ? C'est déjà une dimension galactique. Voilà, c'est pas difficile ça, hein, c'était... Voilà, excusez-moi, j'ai pas trouvé mieux. Une dimension intersidérale, voilà. Et il paraît qu'en plus, l'univers est en pleine expansion. Donc le Dieu que nous servons est encore en train de créer des nouvelles galaxies. Pourquoi faire, j'en sais rien, mais en tout cas il les crée. Le psaume dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. Allô ? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ça veut donc dire que Dieu est vachement grand, quoi. Le Dieu que tu sers, mon frère, ma sœur, est grand. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est parlé de myriades, de myriades, de myriades d'anges. Certains penseurs pensent que ça représente au moins 100 millions d'anges. Non, mais vous imaginez la chorale là-dedans. Ça va être fantastique au ciel. Aline fait un boulot superbe, mais là-bas, ça va être, elle va s'éclater. Il y aura peut-être 10 millions d'anges et 10 millions de chrétiens qui vont chanter Dieu, quoi. Alléluia. Nous avons un Dieu grand et puissant. Et avant que Ésaïe ait été envoyé vers le peuple de Dieu, un peuple au cou raide, il va prêcher des années sans que personne n'écoute son message. C'est dur, ça, hein, un prédicateur. Vous prêchez dans le désert, vous prêchez au peuple, et personne ne vous écoute. Et d'avance, vous savez que personne ne vous écoute, Dieu vous le dit. Il fallait avoir les tripes bien accrochées pour aller faire un boulot comme ça. Mais il a pu le faire, parce qu'il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Et j'aimerais te dire, ce matin, nous avons vu une infime petite partie de la gloire de Dieu. Mais je m'en réjouis, et je me réjouis que ça va encore augmenter de plus en plus, parce que c'est ça qui nous donnera la force de sortir. Et d'aller annoncer les vertus de celui que nous adorons. Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu immolé. Amen. Nous servons un grand Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu es son enfant, tu es enfant d'un papa énorme. Pas d'un grand papa, mais d'un papa énorme. Qui t'aime et qui est à tes côtés. Alors si Dieu est à tes côtés, bien-aimé, la crainte va disparaître. Il est plus grand que mes problèmes. Amen. Alors ceci a quelques implications directes. Premièrement, si Dieu est tellement grand, alors ta vie de prière doit être importante aussi. Bien-aimé, la prière devrait être, pour toi, pour moi, un élément non négociable dans l'agenda. Dans mon agenda, il y a des rendez-vous. Récemment, j'en ai refusé un parce que j'avais rendez-vous avec Dieu. Il fallait que j'aille prier, que j'aille parler à mon Père. Parce que les problèmes grandissent d'année en année. Comme les montagnes, n'est-ce pas? Vous avez fait un premier sommet, vous dites, ah ça y est, je vais y arriver. Ah ben non, il y a une vallée, vous remontez plus haut, et vous redescendez, vous remontez plus haut. Et vous dites... Mais ça n'arrête pas, parce qu'une montagne en cache une autre. La vie de prière devrait être non négociable. Parce que ça nous garde au centre de l'univers, de là où les choses se passent et se décident. Voyez-vous, dans n'importe quelle pièce, quel élément de l'univers qui se meut, il y a en son centre un point qui ne bouge pas. Prenons le globe de la Terre. Dans le centre du centre du centre du globe de la Terre, il y a un point virtuel, certes, mais qui existe réellement, et les physiciens le savent, qu'on appelle le centre d'inertie. C'est un endroit qui ne bouge pas. Et notre Dieu, lui, il est immuable, il ne change pas. Et ce qu'il décide, il le fait. Alors veux-tu être en paix? Écoute ce que Jésus te dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos cœurs. Et ce repos, on le trouve où? Dans la prière. Amen. Deuxièmement, la prière est le moyen principal pour accomplir les choses de Dieu et les choses avec Dieu. Sans prière, ça ne marche pas. C'est pas les petites prières, vous savez, du style « Seigneur, merci pour ce bon petit repas et merci pour les bonnes petites mains qui nous préparent. Amen. » Je parle de vraie prière. C'est aussi une vraie prière. Je parle de prière à la dimension de celui que nous servons. Une prière qui nous engage, qui nous prend au cœur, et qui ose voir plus grand, qui ose croire plus. Et dans ce croire plus, il y a forcément de nouveaux défis beaucoup plus grands, avec de nouveaux problèmes. Mais le Dieu que nous servons est déjà dans le lendemain de nos problèmes. Et il sait comment les résoudre. Amen. Je vis le Seigneur, dit Ésaïe. Je vis le Seigneur. Dans cette année de changement, nous avons ces hier et aujourd'hui parmi nous, quelques personnes qui participent à la formation par Internet, c'est ça Jean-Marie? Frère, vous êtes là ce matin? Peut-être vous vous levez, vous qui êtes là ce matin, qu'on vous reconnaisse un petit peu de près et de loin. Voilà. Il y en a d'autres, bonjour, bienvenue. Peut-être pour ces frères-là, ça veut dire des changements cette année. Ils se forment pour aller avoir un impact. Il y en a d'autres parmi nous. Ah, j'en ai pas. Excusez-moi, je vous ai pas vu. Levez-vous encore, qu'on vous voit. Peut-être les applaudir, tous ces frères. Oui. Il y en a d'autres qui sont restés. Certains sont rentrés, je crois déjà. Et ceux de l'église qui se forment. Peut-être se lever un instant. Ceux de l'église qui sont en formation avec Jean-Marie le lundi soir et le samedi. Ouais. Très bien. Il y en a d'autres. Oui, Jean. Patrick s'est rassis aussi vite qu'il s'est levé. Peut-être pour ses frères, cette année est une année charnière, une année d'un virage. Et honnêtement, je l'espère de tout mon cœur. Car ce que le royaume de Dieu manque, c'est des ouvriers dans la moisson. Mais dans l'année du changement, il est marqué, Ésaïe vit le Seigneur. Il vit sa grandeur, mais il vit aussi sa sainteté. Il vit aussi sa sainteté. Le cantique ou le cri du cœur qui sortait de la bouche des anges était « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées ». La nature profonde de Dieu est la sainteté. Ça n'a rien à voir avec la bigoterie. C'est la pureté intrinsèque, profonde de Dieu. Pureté dans ses motivations, pureté dans ses façons de faire et de penser. Bien-aimé, lorsque Ésaïe voit ça, lorsque Ésaïe voit cette sainteté, il s'écrit « Malheur à moi !» Ce sera mon second point. « Malheur à moi !» Si Dieu est saint, moi je suis malsain. Voyez-vous, des fois on a une très haute opinion de soi-même. Quand je suis arrivé à Dieu, j'ai déjà dit ça, quand je suis arrivé à Dieu, j'étais vraiment un bon garçon. Je me croyais vraiment bon, hein, franchement. Et je m'étais dit, eh ben, parmi tous ceux qui se sont montés ce soir, je suis sûrement le meilleur. Seigneur, vraiment, tu as fait un bon choix avec moi. Vous savez quoi? Si pour beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur, la première année était l'année des changements fantastiques, du répond aux prières, ils ont des réponses extraordinaires. Moi, c'était d'abord une descente aux enfers. La première des choses que j'ai apprises en rencontrant Dieu, c'est combien j'étais malsain. Combien sous l'apparence d'un bon garçon BCBG, il y avait des abîmes de ténèbres au fond du cœur. Ne pensez pas que je sois bon. Je suis un gracié. Je ne suis qu'un gracié. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine à mon égard. Malheur à moi, Seigneur, malheur à moi, dira Ésaïe, malheur à moi, verset 5. Malheur à moi, je vous le relis, je suis perdu. Comment ça, Ésaïe? Et il répond derrière, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Dont les lèvres sont impures. Non seulement le peuple était impur, mais même Ésaïe, le prophète, se déclare impur. C'est un peu comme une, vous savez, un pare-brise qu'on a lavé dans l'ombre du soleil. On le brique bien, n'est-ce pas? On se met dans la voiture, on se dit, ah, il est propre. Vous faites 2,50 m, le soleil brille dedans. Ah, il est tout sale, il y a plein de traces ici, vous allez briquer encore, n'est-ce pas? Mes amis, plus on s'approche du Seigneur, plus on se rend compte combien on est malsain et combien on a besoin que Dieu nous purifie. Et j'aimerais te dire ce matin la chose suivante, Dieu ne fera pas l'impasse sur ton péché. Tu veux servir Dieu, très bien, mais il ne fera pas l'impasse sur ton péché. Je vous ai coupé le souffle, hein. Dis à ton voisin, Dieu ne fera pas l'impasse sur ton péché. Dis-le lui, gentiment, avec beaucoup de respect. Voyez-vous, des fois, on peut essayer de rationaliser le péché. Ah, mais si j'ai fait ça, c'est parce que ceci. Parce que mon père, dans mon enfance. Parce que mon épouse n'aime pas assez, alors je l'ai trompé. Ou mon mari n'aime pas assez, je l'ai trompé. On peut rationaliser le péché, on peut le couvrir, même le tolérer. Ouah, c'est pas si grave que ça. Allez, c'est pas si grave que ça. Un petit mensonge de circonstance, c'est pas si grave que ça. On peut se voiler la face, on peut faire des choses justes, même très justes, avec des motivations fausses ou impures. Mon ami, Dieu ne cherche ni des hommes talentueux ou expérimentés, avec beaucoup de charisme ou qui ont des grands carnets d'adresses. Non, ce que Dieu cherche, c'est des hommes au cœur droit et pur. Amen. Des fois, on est étonné de voir à la tête de différentes œuvres des gens qui n'ont pas forcément les qualifications académiques. Mais ils ont les cœurs qui appartiennent à Dieu. Mon ami, ceci étant dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas travailler à l'excellence et à ses progrès personnels, même au niveau académique. Mais voyez-vous, l'excellence commence par le fondement, et le fondement, c'est la sainteté dans nos vies. Le fondement, c'est la sainteté. C'est marcher avec Dieu au quotidien. Et dans ce quotidien, là, Dieu nous dit, hé, là, mon petit Claude, là, t'as de nouveau... D'accord, Seigneur, je corrige le tir. Et c'est au quotidien avec lui qu'on marche. L'excellence exige la sainteté de nos vies. Car voyez-vous, ce sont les cœurs purs qui verront Dieu. Ce sont les cœurs purs qui verront Dieu et qui le verront agir. Mais sa présence à elle seule suffit à révéler le côté malsain d'Ésaïe. Apparemment, lui et la langue, c'était comme une femme. Hein. Enfin, pardon. Non. Ça allait trop vite, là. Excusez-moi, ça allait trop vite. Oh. T'as fait ça? Ah bon? Karine, tu... Ah bon? Non, d'accord. Non, pardonnez-moi, mais apparemment, les hommes ont aussi un problème à ce niveau-là. C'est ça que je voulais dire. Ah! Oui, les hommes ont des fois aussi un problème avec la langue, pas que les femmes. Peut-être toi, c'est les yeux. Ou les pensées. Ou de l'amertume. Et tu ronges ton passé. Tu rumines dessus. Et tu ne lâches pas celui qui t'a fait du mal. Tu n'ouvres pas ta main. Et tu ne permets pas que ton Dieu te guérisse de ton passé. Dieu est saint. Dieu est saint et il ne fera pas l'impasse sur ton péché. Au contraire, Dieu va attaquer ton problème. Il va venir le révéler, le mettre en évidence. Mais ce faisant, la bonne nouvelle, c'est qu'il vient aussi en même temps à notre secours par rapport au péché. Il a dit qu'il envoyait un ange qui vola avec une pincette et au bout de la pincette, des braises. Et avec cette braise, il brûla, il toucha les lèvres d'Ésaïe. Et Ésaïe a été purifié en un instant. Hey, quelle bonne nouvelle! Purifié en un instant! La Bible dit, Ésaïe 53 dit, le prophète dit de Jésus, il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. C'est marrant ça, hein? Blessé d'un côté et brisé de l'autre. La blessure, apparemment, est quand même moins grave qu'un brisement. Voyez-vous, le péché, c'est ce que nous faisons. L'iniquité, c'est ce que nous sommes. Et Jésus a été non seulement blessé pour nos péchés, mais il a été brisé pour nos iniquités. C'est-à-dire que Dieu veut non seulement nous laver de nos péchés, mais aussi nous travailler, nous remodeler, nous purifier, mais profondément, ces tendances qui nous poussent au mal, il veut les exterminer, il veut les sortir, il veut les enlever. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Nous, nous devrions sauter sur nos chaises de joie et dire, Seigneur, tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. J'ai la paix avec toi. Je suis racheté. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis un enfant de Dieu et maintenant je vis pour le roi des rois. Excusez-moi, je suis un petit peu enthousiaste ce matin. Mais ces textes me font tellement de bien. Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Jésus a payé pas seulement pour ce que j'ai fait, mais aussi pour ce que je suis de malsain. Et en un instant, il peut venir nous toucher avec une braise ardente et nous purifier. Alléluia. C'est pas beau ça? Ouh. Il a vu le Seigneur. Il s'est rendu compte qui il est. Et maintenant seulement, il est marqué, j'entendis, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Se pourrait-il que parfois on n'entende pas la voix du Seigneur parce qu'au fond de nous, il y a encore des moments où nous devons passer devant Dieu, où il doit nous révéler qui nous sommes et nous purifier? Mais il est marqué là, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Voyez-vous, une fois qu'on a vu le Seigneur et qu'on a été purifié, il nous dit maintenant, vas-y mon gars, allez, va, parle aux autres, au boulot. Et voilà le sens de l'existence. Le sens de l'Église. Le but de l'Église, c'est d'être une organisation de sauvetage de gens qui se perdent. Allô ? Le but fondamental de l'Église, c'est d'être d'abord une organisation de sauvetage de gens qui se perdent. C'est opération secours. Et il te met, toi et moi, dans une position d'influence. Les uns, c'est des petites influences, d'autres, c'est des grandes influences. Mais peu importe, là où tu as une influence. D'abord sur les tiens, puis sur ton travail, ton collègue de travail, etc., tes amis. Il y a une influence et nous serons jugés en fonction du degré d'influence que nous aurons utilisé pour amener des hommes et des femmes à cheminer avec le Seigneur. Le but de l'Église, c'est d'emmener un maximum d'hommes et de femmes avec elle dans le ciel. Et ce faisant, il y a aussi derrière un autre travail, travail d'hôpital, on guérit les gens, n'est-ce pas ? Travail de formation, on les façonne et après on les renvoie de nouveau. Amen ? Mais c'est ça le but de l'Église, c'est ça le sens profond de l'histoire. Et ma vie est appelée à s'intégrer là-dedans. Alors des fois j'aurai tout ce que je voudrais, des fois j'aurai d'autres moments où j'aurai pas tout ce que je voudrais. Paul saura dire, j'ai vécu dans l'abondance, je suis me contenté de l'abondance, mais aussi de la disette. Je suis m'adapté à tout. On est loin d'un christianisme qui promouvrait le côté très hollywoodien, tout va bien, tout est toujours à l'eau de rose, tout va toujours bien, c'est fantastique. Non. Qui enverrai-je ? Remarque par rapport à ce texte, je suis étonné. Dans le Nouveau Testament, Jésus passe comme ça dans les rues et il voit Matthieu, il dit « Toi, suis-moi ». Un appel très direct, très impératif, « Toi, suis-moi ». Là, c'est plutôt une invitation, c'est du style « Tu veux me suivre ? Qui veut me suivre ?» Même pas toi, il dit « Qui veut me suivre ? Qui veut être mon porte-parole ?» Voyez-vous, des fois, je crois qu'il y a des appels. C'est pas forcément en direct comme ça. Toi, Jean-Marie, tu me suis. Jean-Marie dit, oui, je te suis, Seigneur. Et il l'a fait. Amen. Mais des fois, il nous appelle autrement. Il nous dit, qui veut. Dans ma vie, lorsque je suis devenu pasteur, Dieu m'avait clairement dit, fais, vas-y. Il m'avait clairement dit avant. Mais la radio, par exemple, c'était pas du tout prévu. Hein. C'était du style, qui veut s'en occuper ? Je dis, écoutez, il faudrait réfléchir pour refaire un peu quelque chose là-dedans, ça sent un peu le poussiéreux, là. Et puis j'ai commencé à pousser les portes, et tout à coup, je me suis retrouvé devant tout seul. Et longtemps, je me suis dit, mais tu ne m'as jamais rien dit, Seigneur. Mais Esaïe non plus, il n'a pas dit, Esaïe, toi, viens, fais. Il lui dit, qui enverrai-je ? Esaïe aurait pu se taire et ne rien faire. Lorsque Reinhard Bonnke a écrit le petit livret « Du moins en plus », qui a été édité dans des millions d'exemplaires, lorsque Dieu lui a parlé dans la chambre secrète, dans le culte personnel, il lui dit « Reinhard, écris-moi un livre d'évangélisation ». Et Reinhard a dit « Mais Seigneur, moi je suis un orateur, j'aime parler, mais je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas bon à l'écriture. Seigneur, prends-en un autre !» Et Dieu de lui répondre, tu es déjà numéro 3 sur la liste. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Je ne suis pas le plus fantastique des ceci ou des cela, mais envoie-moi, Seigneur. Bien-aimé, je pense honnêtement que il y a des moments donnés, il ne faut pas attendre qu'on ait une révélation supranaturelle, secouante, qui nous prend aux tripes et qui nous foudroie. Voyez-vous, je pense à la liste de Schindler. Cet homme n'a pas eu un appel de Dieu, hein, mais tout simplement, il a fait ce qui était juste. Et il l'a fait. Et il a sauvé un millier de Juifs. Par rapport à ces Juifs, vous étiez sur la liste, vous étiez sauvés. Vous n'étiez pas sur la liste, vous étiez quasiment condamnés à mort. La bonne nouvelle nous apprend que pour ceux qui sont encore vivants, maintenant, dans nos villes et dans nos cités, ils peuvent encore changer de liste entre les perdus et les sauvés. Mais que dans la mesure où quelqu'un le leur dit, dans la mesure où quelqu'un le leur dit, alors on peut peut-être changer la façon de dire, la façon de faire, mais le but ultime c'est de le leur dire et de dire, hé mon ami, est-ce que tu es au courant que bientôt tu auras à rendre compte devant le Christ de tout ce que tu as fait sur terre. J'aimerais m'arrêter là en disant que il y a un sens de l'histoire. Il y aura une fin des temps, une fin des nations, il y aura un jugement des vivants et des morts. Mais l'Église est l'équipe de sauvetage. C'est là-dessus que Dieu a misé sur vous et sur moi. Et ce matin, il te pose la question, mais qui enverrai-je? Et je voudrais que vous puissiez dire comme un seul homme, envoie-moi Seigneur, quand tu veux, envoie-moi. Parce que c'est le cœur de Dieu qui bat là. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, il a donné sa vie unique, afin que tous ceux qui le veulent bien puissent changer de liste et passer sur la liste des sauvés. Amen. Alors ce matin, je voudrais rappeler ces choses aussi élémentaires. Ésaïe a eu un impact et il a traversé les temps et l'histoire. Parce qu'à un moment donné, à un moment de changement, à un moment crucial de sa vie, à un moment ou du pays, il a vu le Seigneur. Il a vu sa gloire. Puissiez-vous voir sa gloire. Deuxièmement, il a vu qui il était lui-même. Et il a été purifié. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as au fond de ton cœur, mais Dieu sait. Et je voudrais te dire, tu ne voudrais pas enfin maintenant dire Seigneur, prends tout. Et faire un beau paquet cadeau avec toutes les saletés qu'il y a là-dedans. Et Seigneur, je te le donne. Et lui, il vient te purifier, te nettoyer, pas seulement en surface, mais en profondeur. Et enfin, tu puisses répondre à sa question, qui enverrai-je, que tu puisses dire oui, moi, Seigneur. Les uns seront prédicateurs, d'autres seront pas prédicateurs du tout. Ils seront, je sais pas moi, les uns seront femmes, mères au foyer. D'autres seront infirmières, d'autres seront, je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous voulez comme métier imaginable. Mais vous aurez toujours autour de vous une zone d'influence. Et c'est là votre terrain missionnaire. Amen. C'est là votre terrain missionnaire. Maintenant, je voudrais te demander, mais est-ce que ce n'est pas un moment de se lever et de dire, Seigneur, moi, je veux me mettre au travail. Seigneur, je veux arrêter de me considérer toujours moi comme le centre du monde et considérer tes intérêts, l'intérêt du royaume de Dieu. L'intérêt de voir des hommes et des femmes comme vous et moi passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et dans ce travail de sauvetage, j'aimerais te dire que tout le monde est le bienvenu. Les jeunes comme les vieux, les intelligents comme les moins intelligents, les pauvres comme les riches. Tout le monde est appelé à ce travail-là. Amen. Quand j'avais 30 ans, que je me suis engagé dans l'œuvre du Seigneur, déjà avant d'ailleurs, j'avais un ami à moi qui était un peu mon mentor. Il m'avait dit une chose suivante. Il m'a dit, Claude, tu arrives dans les meilleures années de ta vie. Là. C'est là où tu arrives à maturité au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau professionnel, au niveau humain. Donne-les à Dieu. À 100%. Et j'ai dit, je le ferai. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je n'ai qu'une petite vie de pas grand-chose à vivre. Que ma vie fasse une différence, que ma vie ait de l'impact, que ma vie ait de la valeur. Et la valeur ultime, c'est quoi? C'est que ma petite vie serve quelque peu à amener des hommes et des femmes à aller au ciel avec moi. Et j'ai vu des hommes et des femmes qui se sont convertis par le témoignage tout simple. Ma prof de piano, Juliette, Elle est déjà morte, elle est déjà au ciel, elle m'attend. Juliette m'attend au ciel. Elle est morte d'un cancer à 67 ans, mais elle est morte dans la paix avec Dieu. Et je me réjouis qu'elle est au ciel. Qui enverrai-je? Peut-être tu es venu à Dieu plus tard, je comprends. Mais cette vie que tu as encore devant toi, je vais te dire, tu n'en as qu'une vie. Tu as encore 5 ans, 10 ans, 15 ans devant toi. Mais je vais te dire, donne-la à Dieu. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Amen. Je vis le Seigneur. Je vis combien j'étais malsain. J'ai été purifié. Et j'ai été envoyé. Je pose la question à chacun d'entre nous. Qui enverrai-je? Qui sera mon porte-parole, dit Dieu? Si tu veux dire, Seigneur, je ne suis pas parfait. Hein, je suis un peu comme Ésaïe, c'est les lèvres, c'est la tête, c'est les yeux, c'est le cœur, c'est ce que tu veux. Seigneur, Seigneur, si tu veux bien de moi, je veux bien y aller. Que ceux qui veulent se lèvent à la place maintenant et disent, moi je veux, Seigneur. Qu'ils se lèvent simplement en disant, moi je veux, Seigneur. Et dans ce je veux croire que Dieu saura aussi honorer votre foi. À savoir que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront données en plus. Le pain à manger, le vêtement à se vêtir, le chauffage pour l'hiver, malgré la hausse des prix de gaz de France. Qui enverrai-je? Que ceux qui le veulent se lèvent à leur place. Nous allons prier ensemble et chanter.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.